Série d'études de cas consacrées aux espaces créatifs. Toronto Centre for the Art. Cette série d'études de cas consacrées aux espaces créatifs a été réalisée grâce au soutien de Patrimoine Canada et du Conseil des Arts du Canada. Table des matières. Introduction. Page 3. Arts Build Ontario. Page 3. Toronto Centre for the Art. Page 4. Personnes interviewées. Page 4. Historique des installations. Page 4. Sommaire du projet. Page 4. Le quoi. Page 4. Quelles circonstances ont mené à la rénovation du Toronto Centre for the Art. Page 4. Qu'est-ce que le Toronto Centre for the Art créait. Page 5. Le pourquoi. Page 5. Pourquoi le Toronto Centre for the Art a-t-il entrepris ce projet. Page 5. Pourquoi le Toronto Centre for the Art a-t-il fait appel à sa communauté. Page 6. Le qui. Page 6. Qui cet espace sert-il. Page 6. Qui dirigeait le projet. Page 6. Qui faisait partie de l'équipe de projet. Page 6. À qui le projet a-t-il été confié. Page 7. Qui étaient les partenaires clés du projet. Page 7. Qui était opposé au projet. Page 8. Le comment. Page 8. Comment le projet est-il passé de la conception à la construction. Page 8. Comment un plan de construction a-t-il été conçu. Page 8. De quelle manière l'accessibilité a-t-elle été prise en compte. Page 9. Comment les enjeux environnementaux et d'efficacité énergétique ont-ils été intégrés au projet. Page 7. Comment les événements imprévus ont-ils été gérés. Page 10. Comment la programmation a-t-elle été touchée pendant la construction. Page 11. Comment les activités quotidiennes ont-elles été touchées pendant la construction. Page 11. La suite. Page 11. Comment le Toronto Centre for the Art a-t-il établi les nouvelles données financières. Page 11. L'espace créé présente-t-il une nouvelle source de revenus. Page 12. Du personnel a-t-il été embauché après le projet. Page 12. Comment le Toronto Centre for the Art est-il entretenu et géré. Page 12. Quelles leçons ont été tirées au cours des 90 premiers jours. Page 12. Quels enseignements ont été tirés pendant la première année. Page 13. Sommaire de l'étude de cas. Page 13. Ressources. Page 14. Introduction. Arts Build Ontario, A.B.O, s'est associé à 19 organismes artistiques répartis à travers l'Ontario qui ont mené des projets d'immobilisation mis en valeur dans une série d'études de cas. Ces études de cas détaillées constitueront une source d'information pour les organisations œuvrant dans le domaine des arts et du patrimoine qui se lancent dans un projet d'immobilisation. Elles leur permettront de tirer profit des réussites et des défis d'autres intervenants du secteur. Pour tous les projets abordés par ces études, nous analyserons le pourquoi, la raison pour laquelle ils ont entrepris le projet, le quoi, qu'est-ce qu'ils bâtissaient et créaient, le qui desservent-ils, qui soutenait ce projet, qui menait ce projet et qui embauchait-il, le comment le projet était-il soutenu financièrement, quel poste était créé ou comment était-il financé, et la suite, que s'est-il passé après, comment l'édifice est-il entretenu ou géré, est-il durable? Comment les revenus sont-ils générés? Nous avons étudié un large éventail d'espaces répartis dans la province et couvrant une variété de modèles d'exploitation, de taille, d'emplacement, d'envergure de projet et de discipline artistique. Ces études de cas mettront l'accent sur le processus respectif de chaque organisation pour l'accomplissement de chaque projet. De la phase de planification jusqu'à la construction, l'exploitation et l'entretien. Une fois les 19 études de cas terminées, un résumé des pratiques exemplaires sera rédigé et publié sur le site web d'A.B.O, accessible à tous. Cette série est soutenue par le programme d'apprentissage Learning Series, une collection de webinaires et d'ateliers qui soutiennent les programmes de base d'A.B.O. Les webinaires qui mettent en valeur les projets d'immobilisation présentés dans cette série d'études de cas seront publiés de 2018 à 2020. Veuillez consulter la page www.artsbuildontario.ca/learning/webinar/ pour connaître les dates à venir. La série des études de cas a été réalisée grâce à la participation de Patrimoine Canada et du Conseil des Arts du Canada. Arts Build Ontario. Arts Build Ontario est la seule organisation en Ontario dédiée à la réalisation de solutions à long terme pour la construction, la gestion et le financement d'installations artistiques durables dont nos communautés ont besoin. A.B.O offre des outils, des ressources et des programmes qui aident les organisations artistiques à réaliser leurs projets d'espace créatif. Les programmes de base d'A.B.O comprennent l'accessibilité aux espaces créatifs, Creative Spaces Mentoring Network et Asset Planner for the Art. Toronto Centre for the Art. Personne interviewée. Christopher Dell, directeur de production. Historique des installations. Construit en 1993 dans l'ancienne ville de North York, le Toronto Centre for the Art, T.C.A, a été imaginé par l'administration municipale locale pour servir de centre d'art pour la communauté. Exploité au départ par la North York Performing Arts Centre Corporation, le complexe comprenait trois salles. Soit le George Weston Recital Hall. Une salle rectangulaire d'une capacité d'un millier de sièges offrant une acoustique idéale, conçue pour les récitals. Le Studio Theater. Une salle de spectacle de 189 places demandée par la communauté et utilisée par les organismes locaux des arts de la scène et des groupes culturels. Le Main Stage. Une salle de théâtre de style Broadway de 1800 places, au centre de l'édifice. Sommaire du projet. La salle Main Stage du T.C. a été sous-utilisée pendant plusieurs années après la fermeture de Dancy AP Productions, son principal client, qui avait amené la comédie musicale renommée Jersey Boys au TCA. Les auditoires changeaient et les besoins des organismes locaux évoluaient. Le T.C. a consulté sa communauté théâtrale locale et a entendu son désir de disposer d'une salle de spectacle plus petite. On a alors prévu de diviser la salle Main Stage en deux salles réduites. Appuyé par la ville de Toronto et le conseil municipal, le T.C. a rénové cette salle en deux théâtres, le Grenevin Theatre, 296 places, et le Lyric Theatre, 574 places. Le projet était financé par le Toronto Centre for the Art et la ville de Toronto et il a été réalisé entre 2014 et 2016. Le quoi? Quelles circonstances ont mené à la rénovation du Toronto Centre for the Art? Entre 1993 et 1998, le Main Stage constituait la principale source de revenus des lieux. Géré par The Live Entertainment Corporation of Canada Incorporée, aussi connue comme Live, qui se chargeait de sa programmation, cette salle de spectacle de style Broadway présentait des productions importantes. En vertu de son entente avec la North York Performing Arts Centre Corporation, Live programmait également des saisons de concerts dans la salle de récital de 1000 places. Pendant ces 5 années, les deux salles étaient occupées et gérées par Live, tandis que le Studio Theater restait à la disposition des organismes locaux et des groupes communautaires. Néanmoins, lorsque Live a cessé ses activités en 1998, le complexe a perdu son principal producteur et partenaire. Cette période a également présenté des bouleversements au niveau de la municipalité, alors que la ville de North York a été fusionnée avec Toronto. Désormais gérée par la ville de Toronto, le T.C. a été désigné comme une agence et de nouvelles structures de gestion ont été mises en place. Propriété de la municipalité et sans but lucratif, le T.C. est maintenant sous l'égide du Service de développement économique et culturel de Toronto. Le T.C. a demeure imputable à un conseil d'administration constitué de membres du conseil municipal et de bénévoles qui est épaulé par le bureau du greffe de la ville. Selon ce nouveau modèle, le T.C. a misé sur des petits blocs de location, allant de quotidienne, hebdomadaire à mensuelle. Le centre a connu une brève période de stabilité grâce à son partenariat avec Dancy AP Productions en 2008. Toutefois, lorsque cette dernière a cessé de produire des spectacles à la salle principale en 2012, le Main Stage était de nouveau souvent vacant. Qu'est-ce que le Toronto Centre for the Art créait? Grâce à ce projet d'immobilisation, le T.C. a cherché à créer des installations qui serviraient efficacement la communauté des arts de la scène en évolution et son public. Une étude de marché effectuée par NetGain Partenaires Incorporé a conclu à un manque d'intérêt dans une salle de 1800 places. NetGain a mené une deuxième étude de marché qui a confirmé le besoin de salles de 300 et 600 places. C'est à cette étape que le T.C. a réalisé qu'il pourrait diviser sa principale salle en deux plus petits théâtres et améliorer son offre à la collectivité, tout en présentant des productions d'envergure. Le conseil d'administration a mandaté le cabinet d'architecte George Friedman Architects pour effectuer une étude de faisabilité afin de déterminer si ce projet était réalisable. Le personnel de T.C. a suivi avec une proposition commerciale appuyée par NetGain Partenaire. Le plan d'affaires comprenait un plan stratégique quinquennal pour la construction et l'exploitation des nouvelles installations. Le T.C. a présenté le projet à la ville de Toronto et il a été approuvé par le conseil municipal. Le pourquoi. Pourquoi le Toronto Centre for the Arts a-t-il entrepris ce projet? En passant d'un complexe de 3 salles à 4, le T.C. a cherché à servir plus efficacement sa communauté théâtrale, à remplir son calendrier de location et à accroître son marché. Pendant une recherche initiale de nouveaux locataires clés pour la salle principale, des consultants ont rencontré des groupes culturels et d'art de la scène qui ont indiqué ne pas souhaiter des locations à long terme d'un grand théâtre. C'est plutôt la nécessité d'un théâtre de 200, 500 ou même 700 places qui a été souvent mentionnée par les personnes consultées. En outre, le studio Theater de 189 places, utilisé principalement par des groupes communautaires, était réservé au-delà de sa capacité. Avec un locataire à long terme, le Harold Green Jewish Theater, et un nombre croissant d'organismes utilisant la salle plusieurs jours par année, une liste d'attente de plusieurs années s'était constituée. Il était devenu évident que le T.C. devait faire en sorte que ces salles répondent mieux aux besoins des troupes de théâtre et des organismes d'art de la scène, sans oublier l'évolution du nombre de spectateurs. Pourquoi le Toronto Centre for the Arts a-t-il fait appel à sa communauté? La communauté artistique a jeté les bases de la vision menant le projet de rénovation du TCA au cœur de ce projet d'immobilisation, on comptait plusieurs études de marché et de faisabilité qui avaient consulté les organismes des arts de la scène. Les présentations théâtrales traditionnelles évoluaient et les besoins de ce secteur changeaient. Comment faisait foi la liste d'attente du studio Theater et les données empiriques des études de marché, la nécessité de salles petites à moyennes était incontestable. Cette solution pour optimiser l'utilisation des installations présentait un juste milieu pour le studio Theater surréservé et le mastage sous-utilisé. Le qui cet espace sert-il? Les salles rénovées du T.C. avisaient les organismes artistiques et les associations culturelles sans but lucratif, tant professionnels que communautaires. Qui dirigeait le projet? Bien que les projets d'immobilisation nécessitent une équipe d'individus dévoués pour assurer leur réussite, l'ancien directeur général Pim Scotanus et le conseiller municipal John Fillion étaient les deux principaux pilotes de ce projet. Monsieur Scotanus, qui œuvrait au T.C. de 1993 à 2017, avait toujours émis un profond désir de voir le centre utilisé à son plein potentiel. De même, le conseiller John Fillion, qui siégeait au conseil d'administration, était depuis longtemps inspiré par le concept de ville marchable. Tous deux étaient motivés pour servir efficacement la collectivité locale et l'inclure dans les activités du centre. Qui faisait partie de l'équipe de projet? Un sous-comité avait été formé au sein du conseil d'administration pour superviser les rénovations. Ce sous-comité comprenait les personnes suivantes. Pim Scotanus, ancien directeur général. Bob Cooper, le président du comité, expérience en gestion de projet. Lang Lickman, avocat dans le domaine du divertissement, président du conseil. John Fillion, conseiller de la ville de Toronto, 18e arrondissement, vice-président du conseil. Frank Molinari, terrain et biens immobiliers, ville de Toronto. Une équipe de projet a ensuite été constituée pour travailler plus directement sur le projet. Cette équipe comprenait Pim Scotanus, ancien directeur général. Christopher Dell, directeur de production. Bruce Bennett, gestionnaire de production affecté au projet. Frank Molinari, terrain et biens immobiliers, ville de Toronto. Johan Pin, service du développement économique et culturel, ville de Toronto. Gary McCluskey, Diamond Schmidt Architects. Sibyloa, Diamond Schmidt Architects. Entra Rose, Diamond Schmidt Architects. Patrick Johnson, Diamond Schmidt Architects. Onodj, Gilam Construction. Benjamin Valiquette, Gilam Construction. Avant la construction ou même la phase de conception, l'échéancier était serré et le T.C.A avait besoin de l'aide de son personnel pour mener à bien le projet. En conséquence, Bruce Bennett, qui faisait partie de l'équipe de production du T.C.A, a été réaffecté pour être le lien principal avec l'équipe de construction. À qui le projet a-t-il été confié? Une fois le projet approuvé par la ville, le T.C.A a opté pour un processus de soumission ouvert pour la sélection d'un architecte. Le T.C.A a publié un appel d'offres et a engagé le cabinet d'architectes Diamond & Schmidt Architects pour le projet. Gary McCloskey était le principal architecte, alors que Sybil Oye et Antra Rose ont fourni la plupart des plans. Un autre intervenant clé de l'équipe Diamond & Schmidt était Patrick Johnson. En tant que gestionnaire de la totalité du projet, il représentait le principal point de contact de T.C.A et le tenait informé pendant la progression du projet. En raison de l'échéancier serré, le T.C.A a décidé qu'une méthode de gestion de la construction serait plus efficace. Le superviseur de construction en EDG et le gestionnaire de construction Benjamin Valiquette de Gilam Construction ont été embauchés au début du projet afin de gérer la construction. Toutes les soumissions et les contrats d'entrepreneurs spécialisés ont été traités par Gilam Construction, qui a aussi surveillé le processus de construction. Supervisés par Diamond & Schmidt Architects, ils ont joué un rôle déterminant dans la réussite du projet. Qui étaient les partenaires clés du projet? Pendant le projet d'immobilisation, la ville de Toronto a été une ressource précieuse. Non seulement elle a fourni un soutien financier, mais le service de développement économique et culturel, ainsi que celui des terrains et biens immobiliers, ont offert leur savoir-faire. Le soutien du personnel municipal chevronné a grandement contribué à guider les premières étapes du projet. Deux membres du personnel de la ville ont apporté leur appui durant toutes les étapes du projet, Joanne Pine du service de développement économique et culturel et Franck Molinari des terrains et biens immobiliers ont été des acteurs clés dans la réussite des rénovations. Un autre partenaire majeur qui s'est joint au projet était la compagnie théâtrale Harold Green Jewish Theater Company, le principal locataire du studio Theater. Celle-ci a exprimé son intérêt de devenir une compagnie résidente du Grenevin Theater, l'une des deux nouvelles salles créées par la division de la salle principale. Grâce à cette association, le T.C.A a pu trouver un partenaire avant le début de la construction et libérer le studio Theater pour d'autres organismes communautaires qui étaient opposés au projet. Pendant sa première décennie, la salle principale du T.C.A servait habituellement aux productions à grande envergure de sociétés à but lucratif. Sans aucun doute, ce théâtre unique de type Broadway manquait à ceux qui pouvaient remplir une salle de 1800 places. Alors qu'une des rares grandes salles de la région fermait ses portes, quelques organismes et producteurs ont déploré la perte d'une scène bien conçue et centrale. Le T.C.A a pu détourner la plupart des critiques en restant en communication avec le personnel de la ville, les gestionnaires immobiliers voisins, la communauté locale et les médias. En tenant au courant tous ces intervenants des progrès du projet et en les invitant à visiter les lieux et voir les rénovations au fur et à mesure, le T.C.A a été en mesure de susciter un capital de sympathie envers le projet. Le comment. Comment le projet est-il passé de la conception à la construction? Plusieurs facteurs ont contribué à amener ce projet de la conception jusqu'à la construction. D'abord, le besoin exprimé par la communauté pour de plus petites salles et un plan commercial convaincant ont assuré un vote positif au conseil municipal. Ensuite, le T.C.A disposait des ressources financières adéquates pour soutenir le projet. En tirant parti de son fonds de réserve, il a pu obtenir une contribution supplémentaire de la municipalité avant la construction. Enfin, le T.C.A pouvait compter sur une équipe dévouée, comprenant des membres de son propre personnel et de la municipalité, des consultants ainsi que des professionnels du secteur. Comment un plan de construction a-t-il été conçu? La phase de conception du projet a été le fruit d'un processus collaboratif reposant sur un dialogue ouvert entre l'architecte, le sous-comité du conseil d'administration, la haute direction, des consultants du monde du spectacle et des intervenants de la communauté. Les discussions ont commencé entre la haute direction et les architectes afin d'élaborer des plans pour réaliser la vision du nouveau TCA après avoir examiné les concepts avec des experts conseils de Theater Consultant Collaborative et d'Aéroacoustique, le T.C.A a invité des intervenants de la collectivité pour obtenir leur avis sur les plans. Ces derniers comprenaient des locataires de longue date, des compagnies de théâtre sans but lucratif et des associations culturelles intéressées. Leur avis, ainsi que des rétroactions fréquentes formulées par l'équipe du T.C.A ont été pris en compte dans les plans peaufinés. Après une dernière ronde de consultation avec toutes les parties, les plans ont été fixés. Afin de construire deux salles, la construction a été séparée en deux phases. La première comprenait la construction du Grenevin Theater afin de soulager le studio Theater surréservé. Ce plan accorderait aussi plus de temps aux architectes pour peaufiner les dessins du plan de salle et les caractéristiques plus complexes du Lyric Theater. Une fois le Grenevin Theater ouvert, les efforts ont été concentrés vers la construction du Lyric Theater. Le Grenevin Theater. La construction du Grenevin Theater a commencé en janvier 2015 et s'est terminée en avril de la même année. Offrant maintenant 296 places, le Grenevin Theater a été construit avec la scène de l'ancienne salle Mainstage. Les cintres d'origine ont été conservés et les hauts plafonds permettent la mise en place de deux grilles, un grillage élevé et un grillage de câbles en tension directement au-dessus de la scène et d'une partie des gradins. La salle comporte aussi des fauteuils escamotables qui permettent de la transformer en un espace événementiel, ce qui assure la polyvalence des lieux. Le Lyric Theater. La deuxième phase de construction portait sur l'aménagement du Lyric Theater entre avril 2015 et septembre 2016. Pour créer cette salle, Diamond Schmidt a conçu une nouvelle scène et créé une structure dotée de treuils motorisés. On a également ajusté l'inclinaison des gradins du parterre et du balcon préexistant afin d'améliorer l'angle de vue de la nouvelle scène. Les murs en chevron lumineux qui ceinturent la salle constituent véritablement la caractéristique dominante du Lyric Theater. Ces panneaux programmables sont rétroéclairés par des dalles changeant de couleur et contrôlés individuellement afin d'intensifier n'importe quelle prestation. En incluant le parterre et le balcon, le Lyric Theater peut accueillir jusqu'à 574 personnes. De quelle manière l'accessibilité a-t-elle été prise en compte? L'accessibilité a constitué une préoccupation majeure du projet de rénovation, les deux salles dépassant les exigences en matière d'accessibilité. Cela se traduit dans les aspects suivants du projet de rénovation. Gradin, en doublant le nombre de places pour personnes en fauteuil roulant, le Grenevin Theater et le Lyric Theater offrent des sièges accessibles. Le Lyric Theater comporte des places accessibles réparties à travers la salle au lieu d'avoir une seule zone désignée, ce qui permet à tous les spectateurs de faire l'expérience des prestations de différents points de vue. Système d'écoute assistée, les deux salles offrent des systèmes d'écoute assistée et excèdent le nombre minimum d'appareils requis. Amélioration pour les artistes, les installations comprennent des toilettes accessibles, tant pour le public qu'en arrière-scène. Un ascenseur de service et des rampes ont été aussi installés pour accommoder les artistes à mobilité réduite. Le Grenevin Theater présente des sièges surbaissés, ce qui crée l'effet d'une scène surélevée. Cela change la visibilité et donne un accès à la scène sans obstacle aux artistes. La scène se retrouve ainsi au même niveau que les loges. Sécurité, des lumières stroboscopiques ont été incorporées au système de sécurité incendie afin d'avertir les personnes ayant des problèmes auditifs. En plus d'un signal sonore, les alarmes comprennent maintenant un avertissement visuel. Comment les enjeux environnementaux et d'efficacité énergétique ont-ils été intégrés au projet? Le T.C.A a doté les deux salles d'éclairage d'ailes, notamment celui des murs en chevron du Lyric Theater et toutes les nouvelles ampoules installées dans les deux salles. Pour rendre les caractéristiques architecturales et théâtrales encore plus efficaces, des lampes intelligentes MAC 301 et MAC 350S, Color Force et des luminaires d'ailes ont été installées dans la mesure du possible. Avec le système de chauffage, ventilation et climatisation existant, le T.C.A a apporté des ajustements qui permettent aux installations de chauffage et de refroidissement d'utiliser un variateur de vitesse et de fonctionner à un débit inférieur. Le système peut fonctionner à une efficacité optimale selon la demande. Comment les événements imprévus ont-ils été gérés? Comme avec n'importe quel projet d'immobilisation, des imprévus sont survenus pendant la construction du Lyric Theater. En Amérique du Nord, l'installation de panneaux lumineux en chevron, sur les côtés de la salle, n'avait jamais été réalisée auparavant pour un théâtre de cette taille. Il a fallu environ 6 mois de plus que prévu pour cette installation. Pendant la construction, le T.C.A a découvert que le concept initial allait coûter 2 millions de dollars de plus que le budget prévu. Il faut constamment adapter le processus de conception-construction et il n'existe pas de plan directeur établi auquel on peut se fier. L'équipe travaillait à partir d'un concept et, au fur et à mesure que l'ouvrage progressait, le design a été raffiné. Pour réduire les coûts du projet, les plans ont été réévalués avec les experts de Theater Consultant Collaborative et l'équipe a réussi en se concentrant sur l'ossature du projet. Dans le Lyric Theater, des systèmes de levage en chanvre ont remplacé à court terme quelques-uns des systèmes motorisés qui pourront toujours être ajoutés ultérieurement. D'autres achats d'équipements ont été reportés et se retrouvent exclus du projet. Il a été décidé de remettre en état les fauteuils au lieu de les remplacer. Un fonds de réserve qui devait permettre au T.C.A de faire face aux imprévus a été conservé pour la fin du projet. Pour ce projet de 10 millions de dollars, le T.C.A avait prévu l'équivalent de 15% pour son fonds de réserve. Comment la programmation a-t-elle été touchée pendant la construction? Pendant la construction, le studio Theater et le Recital Hall ont maintenu leur calendrier de représentation. Une signalisation dans l'ensemble du bâtiment informait les spectateurs des travaux en cours. T.C.A avait aussi installé des panneaux présentant le projet à la clientèle, en plus d'avoir des kiosques pendant des journées portes ouvertes et des événements d'envergure, où le personnel pouvait expliquer le projet et répondre aux questions. Comment les activités quotidiennes ont-elles été touchées pendant la construction? Évidemment, une augmentation de la charge de travail a allongé des journées de travail bien remplies. La charge de travail du personnel d'entretien a été accrue étant donné qu'il était impossible de complètement limiter la poussière à la zone de construction. Le hall d'entrée et les deux salles en activité nécessitaient beaucoup plus d'entretien et un nettoyage quotidien. Des réductions de personnel inévitables ont également eu lieu pendant la construction. Puisqu'il y avait moins de salles en activité, certains postes qui dépendent des spectacles ont dû être supprimés. La suite. Comment le Toronto Centre for the Art a-t-il établi les nouvelles données financières? Avant les rénovations, le T.C.A avait préparé une proposition commerciale avec Net Gain Associates afin d'établir des projections financières et la croissance estimée pour les 5 premières années d'exploitation des installations. Cette proposition comprenait 3 facteurs directeurs. Dépenses de personnel. Maintenance et entretien. Revenus de location. En fin de compte, on prévoyait que les coûts d'exploitation seraient couverts par les loyers. Le T.C.A a consulté plusieurs salles de spectacle de taille équivalente à propos des locations de salles et des revenus générés, y compris le Markham Theater, Richmond Hill Theater, The Row, Vaughan Theater et le Mississauga Living Arts Centre afin d'établir les projections. L'espace créé présente-t-il une nouvelle source de revenus? Une augmentation des dépenses sans croissance des revenus était prévue pour les 2 premières années d'exploitation des nouvelles salles. En vertu d'un modèle d'économie d'échelle, le T.C.A comprenait la nécessité d'effectuer des investissements au début afin de créer des partenariats durables et rentables avec les organismes locaux dans les prochaines années. Après 3 ans, les revenus du T.C.A ont commencé à croître. Les coûts d'exploitation des 2 nouvelles salles sont inférieurs à ceux de l'ancienne salle principale. De plus, le T.C.A enregistre une augmentation de leur utilisation et, par conséquent, de ses revenus de location. Du personnel a-t-il été embauché après le projet? L'embauche de nouveaux personnels avait été prévue dans le budget dès le début du projet. Une fois la construction terminée, du personnel d'entretien supplémentaire a été embauché pour s'occuper de l'espace additionnel. En outre, un autre cycle de recrutement a amené de nouveaux machinistes et techniciens, ainsi que du personnel d'avant-scène pour travailler avec les organismes professionnels et communautaires. Comment le Toronto Centre for the Art est-il entretenu et géré? Le T.C.A continue d'entretenir et de gérer ses installations sous l'égide de Toolive, qui s'occupe aussi du Sony Centre for the Art et du St. Lawrence Centre for the Art. La ville de Toronto est toujours propriétaire de l'immeuble. Après avoir effectué une évaluation de l'état du bâtiment, la ville et Toolive vont développer un plan décennal pour entretenir les installations, plan qui comprend des échéanciers et des stratégies de remplacement de divers éléments des théâtres. Toolive utilise actuellement AppManagerBug, un système de réservation et de comptabilité complet à l'usage du personnel pour réserver et gérer les salles du TCA. Bien qu'il serve principalement de logiciel de location, il comporte aussi des modules pour gérer le stock et les éléments d'actifs. Ce système offre des rapports d'analyse graphique et des tendances relativement à l'équipement et aux locations. Quelles leçons ont été tirées au cours des 90 premiers jours? Malgré toute la planification, les consultations et les examens approfondis, certains problèmes n'apparaîtront qu'une fois le projet en cours ou lorsque les installations sont utilisées. Par exemple, quelques problèmes mineurs ont été décelés lorsque les nouvelles salles ont été ouvertes au public. Cela comprenait le fait que certains tissus et tapis n'étaient pas aussi durables que prévu. Par conséquent, le personnel a dû retirer et remplacer ces éléments. De plus, on a découvert la nécessité d'installer un dispositif de blocage de la lumière dans le Greenovin Theater, afin d'empêcher l'éclairage du corridor extérieur de pénétrer dans la salle. Ce problème était causé par des retardataires ouvrant les portes d'accès à la salle. Bien que cela n'affectait pas la vision sur la scène, cela dérangeait l'auditoire. En fin de compte, la clé pour faire face à ces surprises est de reconnaître que des problèmes surviendront, de rester ouvert aux suggestions et d'être transparent avec votre équipe. Quels enseignements ont été tirés pendant la première année? En matière d'espace physique, même quand les choses se passent comme prévu, les résultats obtenus ne correspondent pas toujours aux prévisions. Par exemple, alors que l'équipe de construction a réussi à transformer le Greenovin Theater en un théâtre de style boîte noire polyvalent, seuls quelques utilisateurs ont tiré parti de la souplesse de l'espace. Au lieu de retirer les rideaux et les équipements, la plupart des locataires l'utilisent comme tel. Dès qu'un projet commence, il est presque impossible de réaliser des économies. Il est important de trouver des méthodes et des matériaux économiques durant la phase de conception, alors que les coûts ne feront qu'augmenter une fois la construction en cours. Dépensez prudemment dans la mesure du possible et prévoyez un solide fonds de réserve dans le budget du projet. Enfin, l'équipe a appris l'importance des tensions créatives pour la réussite d'un projet. Dans la plupart des cas, de saines discussions mènent à de meilleurs plans et projets. Lorsqu'un problème relié à l'acoustique a été décelé après l'ouverture, il était devenu évident que cela n'avait pas été correctement examiné ni évoqué durant la construction. Avec le recul, le T.C.A aurait pu éviter des modifications post-ouverture si l'acousticien avait travaillé directement avec le centre plutôt qu'avec les architectes. Au bout du compte, il doit y avoir un système de contre-pouvoir avec toutes les personnes employées, pour s'assurer qu'une approche de gestion descendante ne limite pas le potentiel du projet. Sommaire de l'étude de cas. Confronté au problème de sous-utilisation de sa principale salle, le T.C. a examiné attentivement des études de faisabilité et de marché, en plus d'effectuer des consultations communautaires, afin de déterminer le meilleur moyen pour servir le milieu des arts de la scène. Soutenu par la municipalité, le T.C. a attiré parti des forces de son personnel, de son comité de l'édifice, des consultants externes et de l'équipe de construction et d'architectes pour réaliser une ambitieuse rénovation en moins de 2 ans. Le projet a permis au T.C. de passer de 100 jours d'utilisation de la salle principale en 2014 à un usage combiné de 235 jours des 2 nouvelles salles. Le projet d'immobilisation a permis d'améliorer l'accessibilité pour les groupes communautaires et sans but lucratif et d'amener une nouvelle diversité de spectacles sur les scènes. Ressources. En anglais seulement. Site web. Toronto Centre for the Arts. Documents. Plan de salle du Lyric Theater. Plan de salle du Greenovin Theater. Ville de Toronto, présentation de l'aperçu du projet, 2015. Ville de Toronto, budget approuvé pour les théâtres municipaux, 2016. Webinaire d'Arts Build Ontario. Enregistrement du webinaire. Transcription du webinaire. Dans les médias. Acte 2 Fort à Toronto Theater, The Globe and Mail. When one theater becomes a two, combining the old and the new to deliver exceptional acoustics, Construction Canada. Toronto Centre for the Arts, a reimagined Lyric Theatre, Urban Toronto. Arkello Project Overview.